Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Salut à tous! Dernière émission de l'année où, en fait, on vous présente un peu ce qu'on va voir dans l'année 2024.
On regarde vers l'avant. Ouais.
On a fait du récapitulatif dans notre dernière émission et là, on vous présente ce qui s'en vient. Évidemment, au niveau des nouvelles, au niveau des tendances, puis au niveau des modèles qu'on va avoir avec nous. Monsieur McKenna, bonjour.
Bonjour, Monsieur Charrette.
Merci d'être là. Alors, tiens, on traînera pas trop. On va parler de ce que toi, tu vois comme tendance qui s'en vient pour l'année 2024.
Ouais, ben je me suis posé la question, à quoi s'attendre dans l'automobile en 2024? Parce que, écoute, ça fait 3 ans qu'on subit les turbulences d'une pandémie qui va, écoute, qui a tout fait dérailler sur son passage.
Oui, absolument.
Y compris dans l'automobile. Alors, je pense qu'on peut se poser des questions maintenant. Et puis, je dis 2024, on aurait pu se poser la question pour la décennie parce qu'il s'en vient, un paquet d'affaires, en fait. Mais la première bonne nouvelle, en fait, la première nouvelle est une bonne nouvelle. Je pense que tout le monde s'entend dans l'industrie, les analystes et ainsi de suite, pour dire qu'en 2024, les prix vont baisser.
J'y vais avec des gros bémols, mais je pense que tu as raison parce que les indicateurs économiques pointent dans ce sens-là.
Depuis 2 mois aux États-Unis, et aux États-Unis, c'est là où on a les chiffres les plus récents, le prix des véhicules neufs est en repli. C'est encore un peu mince. On parle d'un recul de 1,4% sous leur pic de, je pense que c'était en juillet, mais c'est au courant de l'été. Et c'est le début d'une tendance qui, dit-on, devrait durer jusqu'à tard en 2024 si les conditions économiques ne s'améliorent pas soudainement de façon exponentielle. Déjà, on commence à avoir beaucoup plus de véhicules dans les inventaires des constructeurs et des concessionnaires. Ça pourrait inciter certaines marques, les marques américaines, par exemple, qui sont très fortes là-dessus, à faire des promotions assez alléchantes dès cet hiver, c'est ce que disent les analystes. D'ailleurs, notez que décembre et janvier, petit conseil ici, sont les 2 meilleurs mois dans l'année pour acheter un véhicule à bon prix, parce que c'est les 2 mois où les concessionnaires sont pressés de liquider un peu de l'inventaire puis font des bons deals.
Exact.
Cela dit, faites attention, si acheter une voiture neuve pourrait coûter un peu moins cher en 2024 qu'en 2023, le coût de possession du véhicule, lui, risque de ne pas vraiment baisser. Le prix des carburants a probablement atteint ces jours-ci un plancher et pourrait repartir à la hausse l'année prochaine. Ça dépend toujours des pays producteurs, exportateurs, mais
ouais, et puis géopolitique et tout et tout, là, effectivement, c'est très compliqué. Ça.
C'est moins une tendance si vous avez de l'électrique, là, mais cela dit, ça peut affecter le coût d'opération d'un véhicule à essence. Aussi, l'entretien et les assurances vont continuer de coûter plus cher l'an prochain et on ne parle pas du coût des réparations qui pourraient aussi, eux, coûter plus cher si vous êtes victime d'un accident, ce qu'on souhaite à personne. Autrement dit, même si les prix risquent de baisser en 2024, ça ne veut pas dire qu'acheter une auto va être plus abordable ou que ça va être une aubaine. Parce que même si on est en repli par rapport à 2023, on le disait dans l'émission précédente, depuis sur 3 ans, les prix ont augmenté quoi, 60%, je pense, sur 3 ans.
C'est énorme.
Deuxième grande nouvelle, les nouveaux modèles vont apparaître de plus en plus vite. Le virage électrique, on le sait, hein, ça oblige les constructeurs d'automobiles à mettre en marché tout plein de véhicules entièrement nouveaux. On a vu d'ailleurs toutes sortes de stratégies mises en place. Là, on en parlait de ça aussi dans l'émission précédente. Il y a des versions tout électriques de modèles déjà existants, comme par exemple le Ford F-150 Lightning ou même le Chevrolet Equinox EV, dont on parle, mais qu'on voit donc pas encore arriver. Ça peut aussi passer par la création de marques ou de modèles entièrement nouveaux, comme le Cadillac Lyriq ou le Genesis GV60. Et dans d'autres cas, ben, on a créé des marques, des gammes dans la gamme. J'aimerais dire le modèle, la gamme Ioniq est un exemple. La gamme EQ chez Mercedes-Benz.
Exact.
Ioniq, c'est chez Hyundai.
Puis, il y a une chose que je remarque, je sais pas si c'est moi, mais on commence à être dans la mode, et je vais employer le terme avec des guillemets, mais du jetable dans l'automobile. C'est-à-dire qu'on avait, auparavant, on gardait les modèles 4, 5, 6 ans avant de voir des changements majeurs. Là, on voit beaucoup, chez les Coréens, entre autres, aux 2 ans, il va y avoir des changements. Donc, on garde la plateforme, on garde le moteur, mais on change la carrosserie, on amène un nouveau style, on amène une image différente. Ça redynamise beaucoup l'automobile, mais ça rend aussi obsolète des modèles, je trouve, un peu plus tôt que prévu.
Ouais.
Tu sais, un auto qui a 4-5 ans aujourd'hui, tu le marchais du tout. Coudon, ça pas changé les modèles encore. Tu
ben oui.
Là, attends, tu sais, moi, je sais pas, là, je garde mes affaires plus qu'à 4-5 ans en général.
Ben, il s'est passé quelque chose durant la pandémie, c'est que les constructeurs ont fermé bien des usines et ils en ont profité pour les remoderniser.
Ouais.
Et, ben, tu te rappelles, on a vu des usines dernier cri allemandes, entre autres, dans les derniers temps, où c'est extrêmement robotisé. C'est extrêmement précis et c'est très facile de changer une ligne de montage pour produire un modèle mis à jour ou différent du modèle initialement prévu. Donc oui, ça accélère la mise en marché. Et il y a aussi une nouvelle tendance, c'est la régionalisation de la production où les véhicules achetés dans une région, par exemple l'Amérique du Nord, sont de plus en plus produits localement. Donc on a créé de nouvelles usines, on a robotisé, automatisé et ça donne justement cette flexibilité pour produire de nouveaux véhicules. Parlant de nouveaux véhicules, troisième tendance, et celle-là est à plus long terme, mais c'est plus une question. Est-ce qu'on verra une première marque d'automobile chinoise au Canada bientôt?
Ah, ça, j'en ai parlé. J'ai bien. Parce que là, on prépare une usine au Mexique, là.
Ben voilà.
C'est à côté de chez nous, le Mexique, là.
Et c'est une autre raison un peu moins évidente, là, qui force, elle aussi, les constructeurs à accélérer la cadence de production de leurs véhicules. Celle-là vient de Chine. Les constructeurs chinois sont de plus en plus ambitieux et voient désormais à l'international. Les marques chinoises. Les véhicules produits en Chine, il y en a déjà qui sont vendus ici.
Ouais.
Je veux dire, ceci, ça cadre dans les objectifs du gouvernement chinois qui est de devenir la première puissance mondiale économique en 2040 devant les États-Unis. Je vous le dis tout de suite, c'est pas... Je lisais des rapports macroéconomiques là, récemment. Les chances que la Chine devienne l'économie mondiale numéro un ou l'économie numéro un dans le monde en 2040 sont encore très, très minces. Évidemment, ça les empêche pas d'avoir l'ambition et c'est tout à leur honneur.
Puis, ils ont les moyens de leurs ambitions, les Chinois.
Ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de capitaux. Ils ont...
Le communisme a beaucoup d'inconvénients. Pour y vivre, c'est pas très bon, mais pour un gouvernement, t'as pas de questions à poser à personne, puis t'as surtout pas de réponses peuvent... à entendre de personne.
Ils peuvent décider que ça, ça va
les
par là,
disent,
ça, ça va par là.
On va là, puis personne qui va leur dire quoi faire. Alors ça, c'est d'ailleurs... Pour faire un commentaire éditorial, Donald Trump rêverait de vivre en fascisme ou en communisme, il pourrait faire ce qu'il veut. Mais
ben,
bon.
Oui, ironiquement, c'est bien que tu en parles parce que Donald Trump, en fait, a imposé à son, durant son court règne de président des États-Unis une taxe d'importation de 25 % sur les véhicules faits en Chine, en plus d'une taxe qui était déjà existante de 2,5 %. Donc, ça va ralentir, évidemment, l'arrivée en Amérique du Nord de véhicules chinois. Mais s'ils sont produits au Mexique ou en territoire nord-américain et que ça reste une marque chinoise, là, on contourne cette.
C'est pour ça qu'ils vont s'installer au Mexique, hein? Ils ont compris.
Exactement. Bref, on n'y est pas encore tout à fait, mais les analystes continuent de promettre que les premières marques chinoises seront sur la route en Amérique du Nord, probablement quelque part en 2025. Donc ça s'en vient assez vite, merci.
Ça s'en vient assez vite et le contexte est bon parce que le prix moyen d'un véhicule électrique est extrêmement élevé et les Chinois sont capables de venir s'insérer.
Juste en dessous.
Voilà.
Exactement. C'est et ça va leur profiter. Évidemment, les consommateurs au Canada, on le sait, au Québec, on le sait, on aime les véhicules abordables et on n'a pas trop peur d'essayer des nouvelles marques. Hyundai, dans les années 80, on a profité assez
Ben souvent. Oui, les gardes, les Japonais, pendant la crise du pétrole dans les années 70, il y a des événements comme ça qui ont fait en sorte qu'on s'est installé et on n'est jamais reparti. Là.
Et évidemment, il y a des marques chinoises qu'on va découvrir, mais il y en a une, BYD, qui est financée par Berkshire Hathaway, qui est...
Monsieur Buffett.
De Warren Buffett, l'oracle d'Omaha. Donc, il y a quand même des intérêts américains derrière ça. Et ces intérêts-là vont finir par pousser fort pour que ça s'en vienne ici.
Oui,
donc, préparez-vous.
Oui.
Ce ne sera pas l'année prochaine, probablement. En fait, très certainement. Mais dans les 2-3 prochaines années, on risque d'en reparler beaucoup.
On va parler de mots comme GAIC, BID, ça va devenir le terme qu'on
va on va les dire comme ça, ça va être le fun.
Voilà, absolument. Écoute, de mon côté, bon, je vous donne une tendance qui va peut-être être une évidence pour beaucoup de gens, mais on va continuer à vendre de plus en plus de véhicules électriques. On a vu avec ce qu'on a annoncé en fin d'année avec des objectifs du gouvernement fédéral, vers quoi on s'en va. Maintenant, est-ce que le rythme de production et surtout les prix vont être capables de suivre ce que les gens peuvent acheter?
Mm-hmm.
Parce que chez nous, c'est clair, il y a un intérêt. Quand je dis chez nous, au Québec, au Canada, dépendamment des régions, un peu moins.
Ça va s'améliorer avec
ça
les
va
nouvelles
s'améliorer.
Cibles fédérales.
Mais c'est pour ça qu'on a mis des cibles au fédéral, parce qu'on avait déjà des cibles au Québec. C'est pas parce qu'on en avait besoin. La Colombie-Britannique et le Québec avaient fixé des cibles provinciales. Le fédéral s'est ajouté à ça. Et on va souhaiter que ça soit une espèce de catalyseur pour dire, bon, ben OK, à cette heure qu'on sait vers quoi on s'en va, il faudra voir si on va continuer ou non de subventionner. Parce que ça sera pas éternel, les subventions.
Ça
là.
Va
faut
aller
pas
avec,
passer.
Avec les prix.
Ça va aller,
là,
ça va aller
ça,
en
là.
Diminuant, mm-hmm. mais faites-vous-en pas. À mesure que les subventions vont diminuer, le prix des véhicules va suivre. Là, pour le moment, les constructeurs trouvent... Le mauvais mot anglais, c'est le sweet spot.
Là, ils ont appris à déjouer l'intention qui est de faire baisser les prix.
Exactement. Ils ont appris à bien négocier tout ça. Mais quand il n'y en aura plus, on va vouloir continuer d'en vendre. Et croyez-moi, les prix vont probablement aller à la baisse de ce côté-là. Donc, puis, on attend aussi plusieurs nouveaux modèles cette année. On travaille déjà là-dessus dans l'annuel de l'automobile. Moi, je suis rendu à une dizaine de modèles là, qu'on attend pour l'année prochaine.
Ça va être une grosse année.
Ça va être une bonne année. L'autre tendance qu'on va continuer à avoir, et ça, ça va être le sujet avec notre invité d'aujourd'hui dont on n'avait pas parlé, on va parler de la montée des véhicules autonomes.
Ça revient.
Ça revient parce que là, on a, bon, évidemment, on a dépensé beaucoup, beaucoup d'argent sur les véhicules électriques. On a mis un peu sur la voie de service les véhicules autonomes, mais veut, veut pas avec la technologie qui continue de je dirais, de s'améliorer, ben, ça met en phase les véhicules autonomes. Évidemment, on a eu plusieurs ratés. Des compagnies comme Cruise qui ont connu des véhicules à San Francisco qui étaient embourbés dans des cônes oranges, qui s'en allaient dans un cul-de-sac. Il y a eu quelques incidents avec des clients. Bon, on voit que c'est pas encore parfait.
Est-ce que c'était Mark Fields chez Ford qui promettait les voitures autonomes, entièrement autonomes en 2021 sur la route?
Exact. Bon, il y en avait. Il y en avait, mais pas des
cas. Pas
ce qui était annoncé, effectivement. Puis bon, évidemment, quand on regarde ce qu'on a annoncé du côté de la Society of Automotive Engineers, on a encore des étapes à franchir. Il y a deux compagnies, il y a Mercedes et je pense c'est BMW, l'autre qui ont officiellement un modèle d'autonomie de niveau 3 sur la route, du côté de l'Allemagne dans le cas de Mercedes. Ça, ça veut dire qu'on peut volontairement quitter des yeux la route et lâcher le volant pendant un certain temps ou sur des routes qui sont prévues à ces fins. On annonce déjà ça depuis longtemps chez Tesla, mais c'est du niveau 2, c'est pas du niveau 3.
Ah.
Parce que la grande différence avec un niveau 3, c'est qu'en cas d'incident ou d'accident, la compagnie est tenue responsable. Alors, quand on arrive avec un modèle de niveau 3 sur le marché, il faut être prêt.
Le constructeur doit être prêt.
Oui, 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 parce que là, tu es tributaire de la technologie que tu installes dans ton véhicule. Donc, et ça, Tesla ne l'a jamais souligné nulle part, même si on parle d'un autopilot, puis d'un full self-drive, puis tous les termes que vous voulez, c'est encore du niveau 2 amélioré. En fait, c'est qu'au lieu de mettre je dirais une recommandation ou de mettre une alarme, ben on le met pas pour on a l'impression qu'on peut conduire,
ouais, ça,
on peut conduire toute la journée. L'autre fait intéressant, puis ça va t'intéresser, la montée en flèche de la connectivité.
Ça continue.
Là, il va y avoir des premiers modèles qui vont arriver l'année prochaine avec du 5G à bord. Il y en a déjà des à petite échelle.
C'est une grosse tendance parce que les constructeurs déjà chiffrent les revenus qu'ils espèrent tirer de cette tendance-là d'ici 2030 et on parle de dizaines de milliards de dollars par année. Donc, les fameux sièges chauffants par abonnement là, qui vont sursauter tout le monde, là, on risque d'en voir.
Ben regarde, le Kia EV9 qu'on vient d'aller essayer il y a quelques semaines à peine, on peut dessiner ou décider du design de ses phares à l'avant.
Ah bon?
Et là, tu as 5 ou 6 différents dessins. Et c'est par abonnement. Tu veux ça, toi, parfait, ça coûte X par mois, puis tu vas avoir tel dessin.
Au lieu d'être carré, ça va être rond.
Exact. Puis il y a différents motifs, et ça sera par abonnement. On commence ça. Je pense qu'on commence à tâter le terrain tranquillement du côté des constructeurs pour voir jusqu'où on peut pousser la note. Et là, évidemment, tu sais, t'as conduit des véhicules comme moi. Là, un moment donné, quand tu tournes ou que ça fait une heure que tu conduis le 10, seras-tu le temps d'une pause café? Check bien, là, ça va être marqué.
On en parlait cette semaine. Ben oui, ça va être écrit.
Ça va être écrit dessus. Le Starbucks le plus proche est à 3 km. Ou voulez-vous aller au Tim Hortons, qui est l'autre bord de la rue?
Voilà.
Mais on rit, là. Mais ça va être ça.
Ben,
quand tu vas
passer,
arriver, ton essence va baisser. Si tu as un véhicule à essence, il va t'annoncer une station Petro-Canada qui aura payé pour être là, ou une Shell, ou une Ultramar. Mais c'est ça qui va arriver. Et là, multiplie ça par toutes les occasions que tu peux magasiner. Évidemment, les constructeurs voient une fortune à faire là. C'est pas pour rien qu'une compagnie comme GM, entre autres, a dit qu'elle allait abandonner Google et CarPlay.
Ils voient la valeur des données.
Eux autres disent, on va développer notre affaire, on va développer ça en 5G, puis on va ramasser les abonnements qui vont aller avec ça. Puis eux autres ont regardé, comme tu dis, la valeur des données, puis ils se sont dit, on est mieux de faire ça tout seul parce qu'on va donner beaucoup d'argent à quelqu'un qui peut-être, on est mieux de le faire nous autres mêmes. Et là, on va voir ça. Mais tranquillement, c'est une tendance, je pense, qu'on va voir au courant de l'année. Alors voilà, ça, c'était nos prédictions. On reparlera de ça à même date l'année prochaine pour voir si on était dans le champ gauche, si on était pas pire. Après la pause, on reçoit
Marie-France Lorrain, qui est une experte de la conduite autonome. Elle était sur des projets à Montréal, à Candiac, un peu partout dans le monde. Et on va parler des tendances là-dedans, parce que ça s'en vient.
Qui était dans mes nouvelles de l'année. Donc, voilà. On va à la pause et on revient.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Rebienvenue à l'émission. Notre invité d'aujourd'hui est une experte en autonomie véhiculaire.
Conduite autonome,
mais pas juste sur les voitures, parce qu'on a souvent tendance à penser juste aux voitures. Mm-hmm. Elle se nomme Marie-France Lorrain. Elle a travaillé sur le premier projet de navette autonome à Montréal. Elle a aussi été sur la première navette en circulation mixte sur les voies publiques dans la région de Candiac.
Beautiful Candiac.
Absolument. Madame Lorrain, merci d'être là. Bonjour.
Bonjour, merci de m'inviter.
Bon, parlez-nous, moi je suis toujours curieux, des gens qui deviennent des experts en autonomie véhiculaire, ça passe par où ça? Qu'est-ce qu'on a comme formation? On a travaillé où? On a acquis notre expertise? Comment? Parce que c'est un domaine qui est encore quand même assez neuf, là.
Mais étant donné justement que c'est un domaine qui est très, très, très récent dans l'histoire de l'automobile et dans l'histoire de la technologie, c'est vraiment un add-on. En fait, j'ai commencé à travailler pour un opérateur privé à Montréal et il y avait un véhicule de disponible aux États-Unis et ils voulaient se lancer à faire les démonstrations de ce véhicule-là ici au Canada. Donc, ils m'ont demandé si ça m'intéressait. J'ai dit oui et depuis ce temps-là, ça fait 7 ans maintenant, j'ai travaillé sur plusieurs projets.
Bon, vous avez fait des projets pour la ville de Toronto, le gouvernement canadien, en fait, pour Transport Canada, des projets pour les secteurs miniers, aéroportuaires, transport de biens, parcs d'amusement. Donc, vous avez un peu touché à tout, là.
Oui, bien, en fait, quand on parle d'autonomie véhiculaire, il y a tellement de différents types de véhicules qui sont inclus dans cette catégorie-là que ça nous permet d'en faire plusieurs et de toucher à plusieurs secteurs.
Il y a des applications industrielles, secteur minier. Je pense que les espèces de gigantesques gros camions qu'on figure pas tellement, ils sont géants parce qu'on les voit pas souvent, mais il y a là, entre autres, une application de conduite autonome qui est assez prometteuse. Il doit y avoir des applications comme ça qui sont plus avancées que d'autres. Où est-ce que ça a commencé déjà, la conduite autonome?
Ça a commencé beaucoup dans le département de la Défense aux États-Unis. Ah. Ça a été plusieurs projets qui ont été faits parce que, justement, il y a des enjeux de sécurité avec les gens dans les véhicules. Donc, les premiers projets, les premiers investissements qui ont été faits pour développer cette technologie-là, c'est surtout dans le secteur du département de la Défense.
OK. Est-ce qu'on peut parler des drones, entre autres? Est-ce que les drones, c'est un exemple?
Les drones font partie d'un exemple. Il y a certains drones qui sont vraiment autonomes. Maintenant, on a des drones qui ressemblent un peu à un Roomba. Donc, qui viennent s'auto-charger, télécharger, téléverser toute l'information qu'il va acquérir. Wow. Donc, il y a ça aussi.
Roomba, on parle de l'aspirateur qui va se rebrancher dans le coin du mur. Pour ceux qui ne savaient pas que c'est pas la Roomba.
C'est une forme de conduite autonome.
Oh, oui, moi et Alain, on ne danse pas en ondes en ce moment. C'est
la Roomba
et
pas la Roomba, la danse.
Non, Roomba, c'est le meilleur ami de tout propriétaire d'animaux. Donc,
oui, effectivement.
Donc, ça, c'est intéressant, mais on en est rendu où dans la technologie? Parce que là, on en a parlé en automobile pendant longtemps. On a eu des... Bon, il y a des niveaux... Parce que là, il y a des niveaux 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bien des gens, des fois, et je vais nommer Tesla parce que M. Musk, Elon, a longtemps laissé comprendre aux gens que le autopilot puis le full self-drive, qui était l'option à 15, 16 000 $ vous pouviez pratiquement vous asseoir derrière la voiture puis laisser tout ça aller, alors que dans la réalité, on est loin de là. Donc, je pense qu'il faut expliquer un peu où on en est en ce moment, puis est-ce qu'il va y avoir des progrès notables cette année?
Mais je pense qu'il y a une grande distinction à faire entre l'aide à la conduite et l'autonomie véhiculaire. C'est vraiment deux éléments complètement différents. Monsieur Musk, moi, ça fait plusieurs années déjà que je le dis haut et fort, ce n'est pas un véhicule autonome. Ce n'est pas fait pour être un véhicule autonome. Ce n'est pas fait pour commencer à jouer à un jeu sur son téléphone ou à écrire des textes. C'est fait pour aider les gens à la conduite, mais Le nouveau marketing de M. Musk a fait qu'il a utilisé les termes qu'il voulait bien utiliser parce que il réclamait ou il clamait au effort qu'il était capable de tout faire. Mais bref, c'est vraiment une aide à la conduite. Donc, ce n'est pas fait pour enlever les yeux de la route et ce n'est pas fait pour enlever les mains du volant.
Ça s'appelle quand même autopilote et full self-drive.
Oui, donc, oui, c'est ça.
Il faut faire la part des choses et dire que le nom est un peu trompeur. C'est du marketing.
Le nom
est extrêmement trompeur.
Exact, exact. Et dans les... Bon, Alain et moi, on a tous les deux eu l'occasion d'essayer le Super Cruise de GM. Ouais, on a essayé le Blue Cruise, le Pro Pilot chez Nissan. Dans ce que vous, parce que vous êtes une experte dans le domaine, c'est quoi les applications les plus prometteuses, celles que vous avez vues et que vous dites, ah, ça va pousser, ça va probablement devenir la norme ou une mesure étalon dans l'industrie?
Bien, en fait, il y a plusieurs éléments en ce moment qui sont de plus en plus regardés au niveau de la maintenance. Quand on pense, je ne sais pas moi, à ramasser la neige ou à déneiger un trottoir, déneiger une piste cyclable, un peu, là, je parlais du Roomba tout à l'heure, mais un peu d'avoir un robot comme ça qui pourrait, nettoyer les rues comme un balai de rue et tout ça.
Ah oui.
Donc ça, c'est des technologies qui sont beaucoup plus accessibles dans le sens qu'ils sont dans des endroits... je vais vous donner un exemple dans le domaine des aéroports. Parlons de couper le gazon. C'est complètement... mais comment est-ce qu'on peut utiliser une technologie autonome pour couper le gazon pendant que l'aéroport est fermé? Donc, ça n'entre pas en contact avec rien. C'est pas, ça n'a pas à être programmé ou à être organisé pour éviter des interactions avec d'autres types de véhicules. Donc, ça, c'est vraiment le type de technologie qui va vraiment émerger beaucoup dans les prochaines années parce que, bon, on connaît l'histoire de la pénurie de main-d'œuvre et moi, je dis toujours, on a trois types d'emplois, en fait, qui vont être très durs à combler, qui sont les emplois qui sont répétitifs, qui sont dangereux, puis qui sont salissants. Donc, en anglais, on appelle ça les triple D, mais ces trois types d'emplois-là, c'est vraiment des emplois qui pourraient être comblés pour maintenir le service, là, pas pour remplacer des gens, mais pour maintenir le service avec la pénurie de main-d'œuvre. Et c'est vraiment ça qu'on voit qui va émerger dans les prochaines années.
Oui, parce que c'est une technologie qui n'aime pas les imprévus. Donc, ça prend des environnements contrôlés pour bien fonctionner. Et effectivement, des complexes industriels, commerciaux, des aéroports, des choses comme ça, des situations où ça va être plus facile de déployer ce genre de technologie-là. Vous disiez, vous parliez de déneigement. On pensait que l'hiver était l'ennemi de la conduite autonome. Est-ce qu'effectivement, on peut utiliser ou on peut voir cette technologie-là avoir un potentiel au Québec, par exemple, où il neige l'hiver et où les routes sont peut-être moins évidentes à naviguer quand il y a de la neige et de la glace au sol?
Mais oui, exactement. À l'aéroport d'Edmonton, ça fait plusieurs années qu'ils font le test avec des véhicules, des grandes grappes de déneigement sur le tarmac de l'aéroport.
Ah oui.
Donc, c'est vraiment l'autonomie véhiculaire, dépendamment de la technologie qui est utilisée, que ce soit un LIDAR, un radar, une connectivité, je veux dire, c'est pas la neige n'est pas l'enjeu principal, c'est la visibilité qui va l'être. Donc, ça dépend, c'est sûr, s'il neige abondamment, ça peut avoir une interaction avec les différents capteurs. Mais en temps normal, je veux dire, le véhicule, on a la mauvaise conception que le véhicule regarde la ligne sur la route. Puis on se dit, bon, ben dans la neige, on voit pas la ligne, ou au Québec, on voit pas tout le temps les lignes. Mais c'est pas ça l'enjeu.
Ah bon?
C'est vraiment au niveau de la connectivité et au niveau de la technologie de repérage qui est utilisée, ça peut vraiment surpasser l'idée de voir la ligne sur la route.
C'est drôle parce que j'avais eu cette conversation-là avec un ingénieur chez Mercedes-Benz il y a quelques années qui disait qu'à l'époque où on fonctionnait par reconnaissance, caméra, radar, lidar et compagnie, l'hiver est un enjeu majeur, mais que depuis qu'on opère avec des satellites, peu importe, on n'a plus besoin. Tant que le satellite fonctionne, on est correct pour se repérer sur la route, effectivement. Mais là, évidemment...
Oui, puis le satellite peut être aussi bypassé par quelque chose d'autre. Donc, on a des marqueurs qui peuvent être utilisés sur la route ou une connectivité qui peut être utilisée soit sur la route, sur des lumières de circulation, sur des stops. Il y a vraiment cette technologie-là aussi qui peut bypasser tout ce qui a rapport avec la connectivité GPS parce qu'on sait que c'est pas toujours stable, cette connectivité-là.
Non, ben c'est ça. En fait, c'est l'inconvénient. Ça prend un peu comme dans les avions, de la redondance dans la technologie pour s'assurer que s'il y a quelque chose qui lâche, qu'il y a un plan B qui embarque automatiquement et que le conducteur, lui, ne le verra pas. Donc, ça va s'imbriquer automatiquement. Si on parle, bon, vous avez parlé de technologie pour des endroits, je dirais, des trajets prédéterminés. Moi, j'avais vu de l'autonomie dans des industries automobiles, dans des grandes usines de fabrication. J'avais vu ça la première fois au Japon, dans les années 90, ben oui. Où tous les modèles, tous les pièces, les véhicules se déplaçaient par convoyeurs automatisés qui marchaient à la musique. C'était du Mozart en plus. Je me suis toujours rappelé d'une usine à Iwaki, l'usine d'Iwaki au Japon de Nissan. Au niveau de la, si on parle des voitures de façon plus précise, est-ce que vous voyez tranquillement une augmentation ou une amélioration de la technologie qui pourrait permettre, Mme Lorrain, d'avoir un jour, avant ma retraite ou avant que je meure, des véhicules autonomes sur la route?
Il peut avoir des véhicules autonomes sur la route, mais je pense qu'en ce moment, l'enjeu, c'est pas nécessairement la technologie, mais c'est l'interaction avec les autres véhicules.
Ouais.
Je me plais à dire que la programmation du véhicule autonome en fait un moyen beaucoup plus sécuritaire que la personne qui conduit son propre véhicule et qui peut passer à regarder son téléphone, regarder l'écran, regarder dehors. Mais c'est vraiment c'est l'interaction entre les deux. Ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est que quand on met un véhicule sur la route, étant donné qu'on parle d'un niveau 3 ou d'un niveau 2, souvent c'est l'interaction. Comment le véhicule va réagir quand il se fait couper?
Exact.
On fait pas ça, nous, au Québec, de couper des véhicules.
Ben non, jamais.
Si jamais on faisait ça, le problème, c'est que le véhicule autonome arrête. Il est programmé d'une certaine façon.
Exact.
Il va pas essayer de réfléchir à comment il pourrait réagir dans un environnement comme ça. Il va juste arrêter. Donc, en ce moment, c'est ça le défi. C'est pas la technologie elle-même, c'est vraiment l'interaction avec le reste.
C'est ça. En fait, c'est de lui donner des réactions la plus humaines possibles, ce qui paraît un peu paradoxal. Mais effectivement, parce qu'on a une intuition que la machine n'a pas. Puis il faut un peu lui inculquer tout ça. Mais c'est très intéressant. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Ça a été une belle entrevue. Ça nous donnait beaucoup plus d'informations sur l'autonomie, surtout de tous les endroits insoupçonnés où l'autonomie s'immisce tranquillement dans le monde des véhicules avec un grand V. Madame Lorrain, merci d'avoir été là. Puis quand il y aura d'autres belles occasions, on dit toujours à nos invités, on vous suit. Quand il y aura d'autres choses, on va s'en reparler.
Merci
beaucoup, là. Alors, c'est Marie-France Lorrain, qui est une experte en autonomie véhiculaire.
Voilà.
Et qui nous a bien expliqué les endroits où c'est maintenant possible d'avoir de l'autonomie à plus grande échelle. Nous, on va aller à une pause et après ça, on vous parle des modèles qui nous attendent, des
surveillez
plus intéressants pour l'année 2024.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Alors, je vous rappelle que nos émissions régulières vont reprendre dans la semaine du 8 janvier. Et on le dit toujours, pour nous écouter, très facile, vous allez sur le 98.5 FM dans la section « Balado ». Vous allez à « Ça tient la route », les émissions sont là.
Oui.
Vous pouvez aller aussi sur votre plateforme de balado préférée, on est à peu près partout. Sur annuelauto.ca, on fait une mise à jour chaque semaine des émissions qui sont passées en ondes. On est aussi en diffusion radio le dimanche à 18h, sauf pour les émissions spéciales, comme aujourd'hui, c'est le temps des fêtes, on est là à 11h. Mais généralement, on est la fin de semaine, le dimanche à 18h. Donc, abonnez-vous.
Ben oui, prenez une résolution là, pour la prochaine année.
Absolument.
Abonnez-vous à Ça tient la route.
Alors, on sera là déjà. On planifie notre mois de janvier. Donc, on aura plein de choses intéressantes. Le Salon de l'Auto de Montréal s'en vient d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
On sera là. L'annuel de l'automobile sera au Salon de l'Auto de Montréal. On va vous en reparler dans la première semaine de janvier. On prépare des petits concours, des choses intéressantes. On va vous glisser un mot.
Oui.
Alain, parle-nous des modèles appréhendés ou des modèles qui s'en viennent que tu as bien hâte de voir.
Écoute, j'ai fait le tour et j'ai identifié 3 véhicules et demi à surveiller en 2024.
Demi, OK.
Ouais.
C'est bon.
Parce que, écoute, ça va être le fun cette année. Ça fait des années qu'on en parle. On entre enfin dans l'espèce de période de grand changement là, que nous promettent bien les constructeurs depuis le début de la décennie. Tu sais, les fameux 300 milliards qu'on veut investir dans l'électrification. Ben, on peut dire que ça a déjà commencé, mais ça commence, oui. Ça rentre dans un nouveau rythme. Là, on rentre vraiment en deuxième vitesse minimum là. J'ai identifié trois exemples de ce virage. Le premier, je parle des Polestar 3 et 4. Que je mets dans le même panier, et c'est là la demi, parce que dans le fond, c'est le même véhicule. On a changé un peu la façon dont se profile l'arrière du véhicule pour changer la Polestar 3 en Polestar 4.
Exact.
Le Polestar 3, donc, est un VUS compact qui est sensiblement plus spacieux que le Polestar 2, même si les deux véhicules sont essentiellement produits à partir des mêmes composants. Le Polestar 4 est la version coupée, entre guillemets, de ce même VUS, auquel on a donc retranché un peu d'espace à l'arrière pour lui procurer une silhouette plus sportive. Polestar en a profité pour éliminer carrément la lunette arrière et la remplacer par une caméra sur la Polestar 4. Au volant, quand on regarde dans le rétroviseur, ça veut dire qu'on voit une image vidéo tirée de la caméra qui, elle, est logée au haut du haillon du coffre sous un petit aileron qui la protège, en théorie, de la neige et des intempéries. C'est ce qu'on promet chez Polestar. On s'est dit qu'en Suède, on connaissait l'hiver. Il n'y a aucun problème. Ça va bien fonctionner. Au Québec, je suis pas mal certain qu'on va trouver le moyen de scraper ça.
Oh, je peux te garantir par écrit. Mais...
Exactement. À suivre.
On n'a pas le flegme mais la discipline des Suédois.
Pas là-dessus, en tout cas.
Non.
Côté technique, les 3 et 4 vont débarquer au courant de 2024. Là, ça n'arrive pas tout en même temps. Il y en a une un petit peu avant juin, puis l'autre à la fin de l'année. Mais c'est la même approche que la Polestar 2. On a une version de base à deux roues motrices avec bonne autonomie, même autonomie prolongée, au catalogue, à côté d'une version plus puissante à quatre roues motrices, mais de moindre autonomie, évidemment. Ce qui reste de faire tiquer, c'est le prix des deux nouveaux modèles. Polestar a indiqué que son intention était d'être rentable en 2025. Ça, c'est une grosse affaire, parce qu'ils ne le sont pas pour l'instant. Et pour y arriver, la stratégie, c'est de vendre un peu moins de véhicules que prévu, mais à un prix plus élevé. Donc, ça va coûter plus cher. Autrement dit, n'attendez pas d'acheter un VUS Polestar à bon prix. Ça n'arrivera pas, en tout cas pas en 2024. Donc, ça va être un... Ça va refroidir un peu les acheteurs, mais je pense que la caméra aussi en arrière va faire tiquer bien.
Oui, personnellement, je suis pas encore habitué à ça. On en a eu dans quelques modèles à l'essai, là, puis je suis allé en Europe parce qu'il y a certains modèles où il l'a là-bas qu'il l'a pas ici. Ouais. Le rétroviseur est encore la meilleure méthode de regarder en arrière. D'après moi, là, c'est
je pense qu'il y a des endroits où l'analogique n'a pas besoin d'être remplacé.
Non, absolument.
Et ça, les yeux, c'est précieux, la
vision. Absolument.
Deuxième véhicule, le Volkswagen ID Buzz, alias Microbus, qui s'en vient.
On va finir par avoir.
Le fameux Microbus, c'est de retour.
Ça fait deux ans et demi qu'il nous l'annonce.
Écoute, on parle d'une petite fourgonnette toute électrique prête à accueillir jusqu'à 7 passagers, dont le prix de détail, si on suit aux rumeurs, se situera quelque part entre 45 000 et 60 000 $. Ça va être bon pour avoir de l'aide à l'achat par le gouvernement.
Ouais, moi, d'après moi, ils vont ça à 59,999.
Ils vont trouver, à 1 $ près, ouais, probablement.
C'est probablement ça qui va arriver.
Que, parce que je l'ai dit, son nom officiel, c'est le ID Buzz, et même s'il va être mis en marché en 2024, il risque d'être millésimé 2025. Mais même, ça fait des années qu'on en parle.
En fait, là, on est au printemps pour le moment, jusqu'à temps que Volkswagen nous envoie une notice pour dire que ça va être à l'été.
Exact. Cela dit, les précommandes ont commencé en 2023. Oui. Donc, ça s'en vient, ça s'en vient. On va dire ça comme ça. Sous le capot, là, pour le dire comme ça, personne ne va être surpris. Volkswagen annonce une pile de 91 kWh. J'ai fait une boulette dans mes notes. J'ai marqué 901 kWh.
Oh, ça, boy, ça, monsieur.
La batterie de
la pile
des champions.
Vous allez avoir une autonomie de 5000 km.
Ouais. Ça prend.
Tu peux rendre au Mexique d'une shot.
Donc, 91 kWh, gardons ça quand même raisonnable. Ça devrait être bon pour 420 km par charge. On risque d'avoir le choix entre une version à deux roues et à quatre roues motrices. Ça va être le fun. On parle d'une puissance de base de 282 chevaux et de 330 pour la version à deux moteurs. Évidemment, Volkswagen va jouer à fond la carte de la nostalgie, hein, mais il n'y a pas grand-chose de nostalgique à bord de ce véhicule-là, à part peut-être le look extérieur.
Oui.
Il y a beaucoup d'écrans, beaucoup de surface tactile, on le sait, Volkswagen aime beaucoup ça. Il y a quand même deux banquettes à l'arrière. On devrait pouvoir asseoir, je vais dire, 6 personnes confortablement. On parle de 7 passagers, mais c'est toujours un peu difficile pour la 7e personne. On imagine évidemment aussi qu'on va voir assez tôt apparaître, au moins au Québec et certainement ailleurs en Amérique du Nord, des versions de l'ID Buzz destinées aux amateurs de camping pour rappeler le fameux Westphalia.
Ça devrait arriver, ça serait logique. Si Volkswagen ne le fait pas, il manque une occasion d'affaire.
Écoute, c'est clair. Mon troisième véhicule, c'est une marque dont on parle très peu, en tout cas beaucoup moins maintenant qu'on en parlait avant, c'est le Mazda CX-70.
Oui.
En fait, on l'attendait en ce moment même, là, ces jours-ci, à la fin 2023, mais c'est finalement l'année prochaine que Mazda va mettre en marché le CX-70, qui est un VUS intermédiaire qui reprend la même stratégie de positionnement de marché que le CX-90. Bref, comme celui-là, le CX-70, c'est beaucoup de CCC, va beaucoup ressembler au VUS déjà mis en marché par Mazda, le CX-5.
En fait, je m'en vais le voir, je dis bien le voir, à New York le 23 janvier.
Parlant,
On a un aller-retour à New York le 23 janvier pour aller voir le véhicule.
Bon, alors Mazda va tenter de le présenter comme un véhicule un peu plus haut de gamme. Donc, attends-toi à te faire parler de ce genre de positionnement-là, qui va commander naturellement, vu que c'est du plus haut de gamme, un prix de vente plus élevé.
Ben oui.
Ça, c'est là où le bas blesse,
n'est-ce pas? On va toujours chercher chercher les profits vers le haut. Puis vous le voyez, là, tous les modèles, comme le CX-5, c'est le CX-50, le CX-3, c'est le CX-30, le CX-9, c'est rendu le CX-90. Alors, quand vous avez un zéro à côté du premier chiffre, généralement, ça veut dire que vous avez un zéro de plus dans le prix aussi.
Presque, effectivement. Sous le capot, le CX-70, il va y avoir deux moteurs. Le premier moteur va être un turbo à 6 cylindres en ligne de 3,3 litres. Qui est, en fait, qui est comme celui qui anime le CX-90.
Oui.
L'autre, on parle d'un 4 cylindres, le fameux Skyactiv de Mazda, de 2,5 litres, qui devrait être jumelé à un groupe électrique...
un PHEV.
Rechargeable, voilà, comme le CX-90.
Comme le CX-90.
J'ai hâte de voir si ça va faire mieux du côté de l'hybride branchable là, que dans le cas du CX-90, qui m'avait un peu déçu.
Moi, je ne m'attends pas à grand-chose de mieux. Personnellement, parce que c'est comme c'est à la même batterie, ça va donner probablement les mêmes 42 km d'autonomie.
C'est un peu dommage. Cela dit, tout n'est pas perdu pour Mazda, là, qui promet toujours d'ailleurs un véhicule, un VUS tout électrique d'ici 2025. On parle d'un vrai de vrai VUS électrique, pas d'une demi-mesure comme le MX-30, là, qui honnêtement était un échec programmé. Un dirigeant de Mazda a déjà promis qu'on utiliserait un autre modèle déjà connu. Donc ça pourrait être un CX-70 en version purement électrique. On ne le sait pas, ça pourrait être un CX-50, ça pourrait être bien affaires, on va voir. Mais on parle d'un 2025, donc ça s'en vient bientôt. Donc, pour les gens qui aiment beaucoup la marque Mazda, il y a, malgré le retard pris dans l'électrification, il y a encore de l'espoir. Ça va être à suivre dans la prochaine année.
Intéressant. De mon côté, j'ai essayé d'aller un petit peu, parce que tu m'avais été échoué pour pas que je prenne,
pour pas que je prenne
la même chose.
Oh, non,
mais je me suis dit, je
savais, nous sommes démasqués, Benoît.
J'avais fait le Ioniq 6 tantôt dans l'émission de la semaine passée pour, parce que justement, ça, je disais, bon, faut que j'en parle moi aussi parce que c'est un modèle qui m'avait frappé. Moi, je suis allé voir le nouveau Santa Fe. Et je vous l'ai dit, je ne suis pas d'abord un amateur de véhicules utilitaires, mais le Santa Fe m'a beaucoup plu. On a pris une approche radicalement différente et pourtant, c'est une approche esthétique. Parce qu'à la base, on va conserver pas mal les mêmes organes mécaniques, la même plateforme. Mais c'est un gros changement esthétique au point où je me demande comment on va suivre dans les autres modèles, comme le Palisade, qui est le plus gros modèle. Le Santa Fe a l'air presque aussi gros que le Palisade. Fait que là, est-ce qu'on va... On va être obligé de changer le style du Palisade. Mais ce qu'on nous disait chez Hyundai, c'est que non, on veut donner à chaque véhicule sa personnalité. Chose que j'apprécie, parce qu'il y a des compagnies où tu regardes les modèles puis tu as de la misère à vérifier quel modèle c'est parce qu'ils ont toutes la même configuration. Ils se ressemblent tous. M'a nommé Mercedes pour en prendre un. Mais tu regardes une classe C, une classe E, Mazda. Bon, tu sais, tu regardes, tu dis, coudonc. Ah oui, non, il est plus long. Ça doit être une classe S, ça. Il est plus court. Ah, une classe E, tu regardes finalement. Ben non, c'est une classe
ça,
C.
Ça, c'est comme, c'est continuellement d'un extrême à l'autre. Mais dans deux générations, il y a des varvoles.
Exact. J'aime que chaque véhicule ait leur personnalité. Alors, j'ai bien hâte de l'essayer.
Ouais.
Pour le moment, on l'a vu, mais on ne l'a pas roulé. Un que j'ai vu, mais que j'ai bien hâte de voir comment les gens vont réagir, parce que je suis allé faire l'essai en Europe, c'est le EX30, modèle électrique de Volvo.
Volvo, oui.
Petit modèle électrique, fort intéressant, qui n'est pas grand, mais qui est intéressant à conduire. Le prix, est un petit peu élevé.
Parce que c'est supposé être un coup de circuit, ce véhicule, là, vendu à bon prix, là.
10 000 de moins, puis il ne fournira pas.
Voilà.
Garantie, parce qu'il y a tout pour plaire. Tu sais, c'est un petit VUS, mais qui se conduit comme une voiture, qui a le côté pratique au niveau du rangement qu'on retrouve dans les VUS, mais qui a le côté, le fun à conduire qu'on a des petits véhicules. On a réussi à accorder beaucoup de compromis dans le véhicule.
Oui.
La finition typique des modèles Volvo.
Il y a beaucoup de réflexions écolo dans les matériaux utilisés.
Absolument.
Ça va très loin, la
puis c'est très épuré, c'est très simple à l'intérieur et en même temps facile à utiliser.
Ben
parce
oui.
Des fois, épuré n'est pas toujours synonyme de simplicité.
Ouais.
Des fois, il y en a trop, c'est comme passé, mais passé, tu dis, bon, peut-être j'aurais pris un bouton ou deux, moi, là, tu sais.
Ouais, ouais, ouais.
Bon, il n'y en a pas, littéralement, il n'y en a pas, mais on s'habitue assez vite. Après une journée de conduite, j'avais déjà saisi une bonne partie de ce qui parle. Je prendrais quand même un bouton ou deux, mais ça, c'est intéressant. Puis l'autre, je vais rester dans l'électrique, c'est la i5 BMW, qui a un modèle qui est fort intéressant. Il va avoir, en fait, j'ai eu l'occasion d'essayer une modèle même qu'on n'aura pas, la i5 40. Moi, il y avait la i5 60 qu'on a essayé. C'est plus haut, là. On part à 95 000 pour une i5. C'est pas un modèle donné. Mais ce que j'ai aimé de BMW, c'est qu'on n'a pas une approche différente. On prend pour acquis que dans quelques années, il va rester que de l'électrique sur la route. et autant habituer les gens tout de suite à la transition
ouais.
en leur disant, écoutez, voici un modèle de série 5, parce que j'ai essayé la 530 à essence, la i5 40 avec deux roues motrices, modèle de base, i5 60, quatre roues motrices, deux moteurs, 593 chevaux, une affaire de fou. Mais physiquement, tous les modèles se ressemblent. Il faut regarder la calandre littéralement à l'avant pour voir là où il y a une différence. Mmh. Et j'ai hâte de voir l'accueil qu'on va faire de ces véhicules-là. Parce que dans certains cas, on a choisi sciemment des modèles différents pour dire, ben voici notre clientèle électrique, voici notre clientèle à essence. Sauf que on se dirige vers un tout électrique.
Ben oui.
Alors, est-ce qu'on va abandonner ceux qui étaient à l'essence, alors que d'autres... Moi, je pense que l'approche de BMW est la bonne. Je peux me tromper.
Je suis d'accord avec toi, en fait.
Mais je me dirais, si on dit, bon, puis honnêtement, la voiture a l'air d'une série 5. Elle n'a pas l'air plus électrique qu'à essence. Mm-hmm. On voit une évolution du modèle. Puis quand on la voit, on se dit, ah, c'est une série 5.
Ouais. Puis, tu sais, il y a des constructeurs, Mercedes en est un aussi. C'est étonnant qu'ils aient la stratégie de développer la marque EQ. Parce que des gens vont acheter des véhicules et le renouvellent aux 4 ans et ne posent pas de questions, reprennent toujours le même véhicule.
Exact. Et là, les compagnies de luxe comme BMW et Mercedes ont le beau jeu parce que, à essence ou électrique, les prix sont extrêmement semblables.
Ouais,
je regardais le prix d'une classe S à essence qui est autour de 145 000 $, 150, ça dépend des options que vous mettez dedans. Et le prix d'une EQS qui est à 1000 $ près se vend le même prix. Donc, on avait une occasion en or de faire littéralement un remplacement, de dire, voilà, voici une électrique qui remplace. Et ces voitures-là sont renommées déjà être très silencieuses.
Mm-hmm.
Fait que, honnêtement, moi, la première fois, j'ai roulé la EQS. Je voyais pas une si grande différence dans le roulement qu'avec une classe S qui est déjà très insonorisée.
Oui, très
on a la même approche chez Rolls-Royce avec la Spectre que j'ai eu l'occasion de rouler. C'est une i7 finalement de BMW, mais bon, en dimanché.
Qui a l'air d'autre chose.
Mais on a cette approche-là que j'ai hâte de voir parce que c'est vrai de la i4 qui part d'une base de série 3.
Mm-hmm.
C'est vrai d'une i5, c'est vrai d'une i7 qui ressemble beaucoup à la série 7. Donc, je pense que de ce côté-là, il y a de l'espoir de voir des choses intéressantes. Ce que j'ai hâte de voir aussi, toujours dans la même vague, c'est ce que Volkswagen va faire avec ses futurs modèles électriques. Tu as parlé du ID Buzz.
Ouais.
Moi, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec une Golf, par exemple. On a eu la e-Golf qui a bien fonctionné ici. Bon, c'est l'autonomie de 200 km qui a ralenti pas mal de monde. Mais je serais curieux de voir, avec une autonomie à 400, 450, qu'est-ce que ce modèle-là irait chercher.
Mm-hmm.
Parce que, on le sait, c'est un modèle que les gens aimaient pour le style, le côté pratique, l'aménagement. C'était le véhicule vraiment idéal. Alors, pourquoi jouer avec ça?
Ouais.
Puis je me dis que de garder une approche et d'habituer les gens tout de suite, à un moment donné, la transition va se faire puis ils ne verront pas la différence. Parce que si tu regardes les plus jeunes générations, là, un moteur, eux autres, là. C'est quand la dernière fois que tu as vu une annonce ou une publicité d'un véhicule où on parlait des performances du véhicule, là.
On en parle de moins en moins.
À part une Mustang ou à part une Corvette, là, mais la voiture de monsieur, madame, tout le monde, on parle plus jamais de ça, là.
Lexus parle même plus de ses voitures.
Non.
Il parle juste de l'ambiance et c'est juste de l'expérience et de l'émotion.
Il parle de la connectivité, il parle de toutes les technologies dans le véhicule,
oui.
Mais c'est tout. Alors, à un moment donné, les gens se poseront même pas la question. Tu sais, moi, je parlais à quelqu'un que je connais bien, puis je disais, hey, quel modèle t'as acheté? Puis là, j'ai eu un silence. T'as-tu un 4? Il y a un 6 aussi. Aucune idée. Il dit, je l'ai eu à temps par mois, puis moi, je voulais l'Apple CarPlay, l'Android pour mes affaires, tout ça. Donc, puis ça ne l'intéressait pas. Donc, c'est pas grave. Donc, je me dis, et je m'excuse du commentaire éditorial qui est un peu long, mais je pense que l'approche que BMW prend est la bonne et on va avoir une transition qui, d'après moi, va se faire en douceur parce qu'on habitue les gens à un certain style et on le sait, on achète souvent une voiture pour le style, pour ce qu'on apprécie visuellement du véhicule et de dire, OK, on reste là, mais là, c'est rendu électrique. Je pense que c'est la façon de faire qui va passer le mieux. Regarde, on revient encore sur l'œil des bosses. Qu'est-ce que les gens aiment?
Ben voilà.
Ça rappelle l'ancien modèle. Alors, je pense que... Voilà, c'était mon commentaire.
Boule de cristal.
Boule de cristal. Écoute, on va nous revenir à partir de la semaine du 8 janvier
ouais.
pour les émissions régulières. Donc, on prépare déjà ça. Le salon de l'auto s'en vient.
Ça part vite avec le CS aussi.
Merci à Jean-Christophe Ouellet derrière la console. Merci à Marie-France Lorrain, notre invitée. Alain aussi. Merci d'avoir été là. Passez une bonne semaine. Soyez prudents. Nous, on se reparle bientôt. Salut.
C'est 23.